VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manirakiza de retour avec vous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. Au moins 86 personnes ont péri dans le naufrage hier d'un ferry dans le sud du lac Victoria en Tanzanie. Ce bilan s'est alourdi avec la reprise ce matin du travail macabre. Des équipes de secours dans les recherches avaient été interrompues la nuit. Nanit Talani.
Il y avait plus d'une centaine de personnes à bord lorsque le ferry a coulé. Il est à craindre qu'un grand nombre d'entre eux aient perdu la vie, a affirmé George Nyamaha, qui dirige le conseil du district de Kerewe dans la région de Mwanza. Un porte-parole du gouvernement tanzanien a déclaré hier que le bilan provisoire s'élevait à plus de 40 morts. Le ferry Nyerere a fait naufrage hier après-midi près de l'île Ukara, dans le sud du lac Victoria, selon un communiqué de l'opérateur public du navire. Le ferry transportait également des marchandises. Les causes de l'accident ne sont pas clairement déterminées, mais de tels naufrages sont souvent dus à la surcharge. Les bilans sont lourds à cause de l'absence de gilets de sauvetage et beaucoup de passagers ne savent pas nager. En 1996, près de 700 personnes ont péri dans le naufrage d'un autre ferry sur le lac Victoria.
Nanit Talani, dans toutes les têtes, la même question lancinante revenait. Combien de personnes se trouvaient à bord du MV Nyerere lorsque celui-ci a chaviré non loin du débarcadère de l'île d'Ukara, sa destination finale? Des témoins ont rapporté à la télévision publique qu'environ 200 passagers se trouvaient à bord du ferry d'une capacité de 100 personnes. Au moins 34 personnes sont mortes dans le nord du Ghana dans des inondations provoquées par de fortes pluies et des débordements d'un barrage au Burkina Faso voisin. Selon des responsables des organismes de secours, plus de 52 000 personnes ont été touchées. Les autorités ghanéennes ont recommandé aux habitants des villages situés près du fleuve Nakambe de s'éloigner des rives ou de s'installer provisoirement sur des hauteurs. En RDC, la police a annoncé hier l'ouverture d'une enquête après découverte à Kinshasa d'au moins 4 corps de jeunes tués dans des circonstances mystérieuses. Des témoins mettent en cause une opération anti-délinquance des forces de l'ordre. Le point avec Peggy Wabeno de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa qui séjourne actuellement à Washington.
La police a ouvert une enquête. Le parquet aussi mène son enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Le général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa, qui reconnaît la découverte de 4 corps, affirme que l'enquête se fait avec des moyens de bord en l'absence d'une base de données pour les empreintes digitales. Cependant, des témoins accusent des agents encagoulés de la police d'avoir enlevé ces jeunes délinquants surnommés Kuluna dans le cadre d'une opération contre le banditisme. Ces allégations sont rejetées par le général Kasongo qui accuse des bandits non encore identifiés d'être responsables de ces morts. Dimanche dernier, 3 corps ont été découverts sur un terrain de basketball dans l'un des quartiers de la commune de Kalamu. Un 4e corps a été découvert à Yolo, autre quartier de la même commune. En 2016, l'opération Likofi contre le banditisme à Kinshasa s'était soldée par un bilan de 80 personnes tuées selon l'ONG américaine Human Rights Watch. Les autorités ont toujours nié ce bilan, avançant un nombre bien inférieur des personnes tuées.
Peggy Wabeno. La commission électorale au Togo a créé la surprise en annonçant 3 élections avant la fin de l'année. Il s'agit d'un référendum et des élections locales pour le 16 décembre, en plus des législatives officiellement prévues le 20 décembre. L'opposition a dit redouter des fraudes dans le contexte de crise actuelle, mais n'a pas vraiment d'autre choix que de participer aux législatives si elle veut avoir une chance de peser au Parlement. En Guinée-Bissau, le recensement électoral pour les scrutins législatifs le 18 novembre et présidentiel en 2019 a finalement commencé hier après un retard de presque un mois. Précision d'Irénée Herman Ungpo.
Le président bissau-guinéen a été le premier à s'inscrire en présence du corps diplomatique et du représentant de la CDAO Blaise Diplo. Nous nous sommes engagés à organiser les législatives le 18 novembre. Cela reste valable malgré le retard dans le démarrage du recensement, a rassuré José Mario Vaz en brandissant sa nouvelle carte. Il a par ailleurs lancé un appel à tous ses compatriotes afin qu'ils retirent leur carte d'électeur. Son premier ministre, Aristide Gomez, a pour sa part déclaré qu'il s'agit d'une phase phase très importante pour la réalisation des élections législatives du 18 novembre. « Ma mission n'est pas totalement accomplie », renchérit-il, indiquant qu'il reste encore du travail à faire. Selon le ministère de l'Administration territoriale, le recensement vise à inscrire près d'un million d'électeurs. Ce recensement, qui devait débuter le 23 août et durer un mois, a été reporté en raison du retard dans l'acheminement du matériel électronique en provenance du Nigeria, qui n'est arrivé que ces derniers jours.
Herman Ungbo, un demi-million d'électeurs du petit royaume africain des Swatini, sont appelés à élire aujourd'hui leurs députés. L'opposition a qualifié ce scrutin de farce en l'absence de partis politiques. Au Libéria, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête après l'entrée de près de 100 millions de dollars américains. Le point avec Joël Zima, une autre consoeur de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa, qui séjourne aussi à Washington.
15 personnes sont interdites de quitter le territoire pour aider dans l'enquête sur l'entrée de billets d'une valeur de 97 millions de dollars américains entre novembre 2017 et août 2018. Parmi les personnes concernées, le ministère de l'Information a cité Milton Weeks, gouverneur de la Banque centrale sous Ellen Johnson Sirleaf. Charles Sirleaf, fils de Madame Sirleaf, qui travaillait dans cette institution depuis les années 2000, et l'homme d'affaires libanais George Abijaoudi, proche de l'ex-présidente. De son côté, le ministère de la Justice a indiqué que le Libéria avait sollicité dans l'enquête l'aide du Trésor américain, du FBI et du Fonds monétaire international. Le but de cette enquête est de montrer exactement la provenance des billets imprimés et amenés dans le pays de 2016 à 2018. Le Libéria, petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, est confronté depuis un an à la dépréciation de la monnaie locale qui rend les marchandises importées inaccessibles pour la majeure partie de la population.
Joël Zima, le fils du premier président de Guinée inculpé de travail forcé au Texas et hébergement illégal d'étrangers pour des gains financiers. Mohamed Touré, fils de Sékou Touré et son épouse Denise Cross Touré, risquent jusqu'à 30 ans de prison aux États-Unis s'ils sont reconnus coupables. Ils sont accusés d'avoir réduit pendant 16 ans une jeune femme en esclavage. D'après le ministère américain de la Justice, elle devait cuisiner, nettoyer, faire la lessive, jardiner, peindre et s'occuper des 5 enfants du couple. Monsieur Touré et sa femme sont aussi accusés de l'avoir isolée de sa famille et de l'avoir maltraitée émotionnellement et physiquement. La jeune fille s'est retrouvée dans l'illégalité aux États-Unis après l'expiration de son visa. En 2016, la victime a fini par fuir avec l'aide d'anciens voisins et la défense de Mohamed Touré rejette les accusations du ministère américain de la Justice. L'Algérie a retiré tous les policiers algériens habituellement en fonction devant les enceintes diplomatiques françaises. C'est en réaction à la suppression par Paris des policiers stationnés devant la résidence de l'ambassadeur d'Algérie en France. Nouvelle fusillade aux États-Unis hier dans une zone industrielle de l'État du Maryland. 3 personnes ont été tuées et 3 autres blessées. Une jeune femme qui a commis ce forfait s'est suicidée. Les motivations restaient inconnues. États-Unis toujours, la femme qui accuse d'agression sexuelle le choix du président Donald Trump à la Cour suprême a jusqu'à 10 heures aujourd'hui pour répondre à l'invitation du Sénat. C'est 10 heures, heure de Washington. Christine Blasey Ford exige des garanties avant de venir à Washington la semaine prochaine. N'est-ce pas, Abdelhaman Dia?
Selon l'avocate de Madame Ford, l'accusatrice de Brett Kavanaugh est finalement d'accord pour venir témoigner devant la commission judiciaire du Sénat si les termes qui lui sont proposés sont justes et sa sécurité assurée. Mais elle a toutefois indiqué dans un email envoyé au sénateur que Christine Ford ne serait pas en mesure de se présenter à Washington lundi comme l'exigent les républicains. Christine Blasey Ford dit avoir reçu des menaces de mort. Cette universitaire de 51 ans affirme avoir été agressée sexuellement par Kavanaugh lorsqu'elle était au lycée. Elle avait demandé une enquête de la police fédérale avant d'être auditionnée par le Sénat. De son côté, le président américain Donald Trump a appelé la femme à témoigner rapidement, accusant ses adversaires démocrates d'obstruction. Le locataire de la Maison Blanche estime que des investigations du FBI ne sont pas nécessaires.
Abdulrahman Dia. La justice saoudienne a tranché en faveur d'une femme de 24 ans qui a poursuivi son père qui refusait de lui procurer un passeport pour étudier à l'étranger. La décision a suscité de vives réactions sur le système de tutelle masculine en place dans le royaume. Cette femme a demandé à la justice d'ôter à son père son rôle de tuteur. Le tribunal saoudien a exigé que le père procure un passeport à sa fille. Celle-ci vivait avec sa mère et n'avait pas pu son père depuis 6 ans.